France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Balzac voyait chez l'un la douleur et la perfection raphaélesque et chez l'autre la fougue et le grandiose dantesque. Tous deux sont nés en Europe centrale, avec quasiment le même âge, ont choisi Paris comme terre d'accueil et incarnent aujourd'hui encore l'archétype du romantique, déraciné, pianiste et compositeur. Que de différences pourtant entre Chopin et Liszt, malgré de nombreux points communs, jusque dans la vie sentimentale, comme s'ils représentaient le négatif et le positif d'un même objet. C'est ce que rappelle, avec de très nombreux arguments, Jean-Yves Clément, dans un essai à la lecture stimulante qui réunit Chopin et Liszt, un temps vrais amis, mais aussi faux frères. Chopin et Liszt, la magnificence des contraires, de Jean-Yves Clément, aux éditions Première Loge. C'est sur un piano Pleyel de 1836 qu'Alain Planès interprétait cette mazurka en si mineur, opus 41, numéro 3, de Frédéric Chopin. Bonjour Jean-Yves Clément.
Bonjour Philippe.
Vous êtes donc l'auteur de ce livre, cet essai qui réunit ces deux compositeurs. Chopin né en 1810 en Pologne, Liszt né en... en Hongrie
Et en 1811. Ah oui, Hongrie, voilà, c'est... la ville de Reading est devenue autrichienne, effectivement. Ce qui lui va bien, voilà. Passer d'une frontière à l'autre, en fait.
Voilà, exactement. Donc vraiment, deux jumeaux, a-t-on envie de dire, qui, tous deux, vont faire début de leur carrière, en tout cas à Paris, dans les années 1830. Vous expliquez tout de suite, puisque votre livre est un parallèle permanent entre, entre ces deux compositeurs, pianistes et autres, déjà, leurs parcours sont différents dès le début, dès les origines, dès la famille.
Absolument, et qui vont peser parce que Frédéric est élevé plutôt dans un cocon bourgeois, je dirais protecteur, qui peut-être l'étouffera en partie et dont il ne sortira pas, ainsi que de son piano, qui est un piano berceau, mais un piano tombeau aussi, pour parler comme ça. Alors que Liszt est d'extraction plus modeste et il en souffrira. Et finalement, il voudra combler cette faille avec cette boulimie de culture qu'on sait. Et c'est de ça qu'il naîtra à nouveau et qu'il deviendra le grand homme humaniste de culture que l'on sait, et aussi l'immense compositeur, de ses doutes perpétuels, de ses errances à tout niveau, et de cette faille et de cette comparaison avec Chopin, qui lui est d'emblée, on pourrait dire, réussi miraculeusement.
Est-ce qu'on pourrait dire, alors Jean-Yves Clément, que de par leurs origines, Chopin resterait toute sa vie, politiquement parlant, j'entends, conservateur, et Liszt aurait une fibre plus sociale?
Ah oui, socialiste, évangélique, un peu comme son ami Georges Sand, et rien à voir, hein. L'humanitaire, c'est sa devise, il donnera des concerts de charité toute sa vie, bien sûr, Liszt est vers les autres, pour les autres. Chopin peut pas, simplement, physiquement, psychiquement, c'est à lui impossible. Mais il paraît qu'au début, quand ils se sont rencontrés dans les années 30, avec Berlioz, Mendelssohn, tout le monde à Paris.
À Paris.
Chopin est volontiers révolutionnaire et tient des propos progressistes. Mais ça lui passera parce que le confort, le salon, tout ce qu'il protège, le côté proustien, font qu'il va pas monter sur les barricades. Mmh. Liszt est un homme de la rébellion, contre l'ordre moral bourgeois, contre les philistins, aurait dit Schumann, son ami.
Le confort, les salons, dites-vous Jean-Yves Clément, mais vous nous expliquez que justement les 10 salons parisiens, Chopin les fréquentait pas volontiers, alors que Liszt il s'y présentait facilement.
Oui, mais les deux en avaient besoin, puis Chopin c'était presque son seul espace, parce qu'il faut rappeler que Chopin n'est pas un homme de concert, contrairement à la légende, il en a donné au maximum 30 dans sa vie, il faut voir dans quelles conditions, alors que Liszt invente le concert moderne, il en a donné peut-être 1000 en une dizaine d'années, ce qui est absolument impossible à envisager, donc c'est quand même deux mondes déjà très opposés qu'ils fréquentent tous les deux, quand même volontiers chez Chopin, même s'il s'en moque, parce qu'il sait que c'est là que ça se passe, c'est quand même l'homme de l'aristocratie. Chopin, il en a besoin encore plus que de Liszt.
Mais par caractère, par tempérament, il n'aime pas trop.
Ben non, de toute façon, tout ce qui lui est étranger, il ne le supporte pas. Tout ce qui est différent de lui. Chopin, il aime Bach, Mozart et fermer le banc. Liszt, il va vers l'humanité tout entière qu'il veut faire entrer dans son piano. D'ailleurs, donc effectivement, tout les gratigne. Georges Sand en parle très bien. Liszt aussi, l'altérité chez Chopin, c'est un problème en fait. Mm-hmm. Et c'est aussi de ça dont il étouffe quelque part.
Quand vous dites, Jean-Yves Clément, que Liszt invente le concert moderne.
Ah oui, il invente la notion même de récital, vous savez, cette façon de se donner de manière apparemment égomaniaque devant des très grandes foules dans des salles gigantesques. Il a tout inventé dès 1840. La rockstar, c'est lui, et c'est lui qui invente le show business, c'est lui qui fait distribuer sur les sièges des fausses autobiographies louant sa destinée, son enfance difficile. Enfin, il est incroyable, il a inventé un sens de la communication, mais pour jouer les autres et les faire entendre. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Autant Chopin ne joue que Chopin ou Mozart, autant Liszt joue tout le monde pour cause. À l'époque des concerts, il n'y a pas vraiment d'œuvre de Liszt tout à fait, si ce n'est les paraphrases et les transcriptions, justement.
C'est ça, parce que Chopin s'est fait connaître comme compositeur plutôt que Liszt.
Absolument, et tout de suite à Varsovie, il faut dire qu'il est génial, dès les premières œuvres pour orchestre, avant même les concertos, dès ses 16 ans, 17 ans, Rondo, Cracoviac, tout ça. Et c'est ça qu'il donne en concert, et déjà il s'affirme comme un grand compositeur. Liszt sera grand compositeur, ça c'est l'objet du livre, plutôt à partir de la mort de Chopin et lors de sa deuxième vie, et de sa deuxième femme, en 47, quand il arrête la carrière, qu'il continue les concerts de charité, mais qu'il devient un compositeur. Tout ça suit un plan très préétabli. Chez Liszt, et on le sait pas assez souvent. Cet homme de génie qui aurait pu exploser sous le pouvoir, les conquêtes, a su à 35 ans qu'il fallait s'arrêter. C'est quand même prodigieux. Thank you.
La deuxième des études d'exécution transcendante de Franz Liszt, Fusée, sous les doigts de Boris Gilbert. Jean-Yves Clément, vous êtes l'auteur donc de cet essai sur Chopin et Liszt, deux compositeurs que vous connaissez bien. Et vous dirigez alors deux festivals qui leur sont consacrés. Et là, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent en direct ce 16 octobre, se déroule un festival consacré à Liszt. Donc c'est la 20e édition,
c'est ça ? Que j'ai inventé, les Listomania de Châteauroux, non loin de Nohant, à 20 km, qui nous rapproche du sujet Chopin.
Donc même en France, les deux étaient proches alors.
Même en France, ils étaient proches, puisque l'idée de ce festival était confiée à George Sand par Liszt, et c'est moi qui relevais leurs gants, et presque au moment où Chopin était à Nohant, même au moment, même s'il n'était pas tout le temps. Et oui, il y a des concerts en ce moment. Ce soir, il y a Nathanaël Gouin et Paul Ley, classique et jazz.
Très belle affiche.
Demain, il y a Kantorov, Orchestre des Pays de la Loire, puis François-Frédéric Guy, puis Chamaillou qui clôturera avec l'intégrale des Aides de Pèlerinage. C'est énorme.
Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent en direct, le festival se tient jusqu'au 20 octobre, donc, les Listomania à Châteauroux. Oui. Revenons à votre essai Chopin et Liszt, Jean-Yves Clément. Vous avez dit que Liszt était sorti de sa chrysalide, on a envie de dire, au moment où Chopin était mort. Liszt compositeur, j'entends.
C'est une coïncidence inconsciente ou pas, mais il se trouve
que c'est troublant.
En 47, Liszt arrête sa carrière, Chopin meurt en 49, il va très mal depuis 47. Mm-hmm. C'est l'année de l'exil de Nohant et la fin de la langue musicale pour Chopin. Et Liszt, il lui reste à peu près la même durée de vie que la vie tout entière de Chopin à vivre. C'est incroyable cette symétrie. Et c'est là qu'il devient l'immense compositeur que l'on sait, avec la sonate, les concertos, les poèmes symphoniques, enfin tout, hein. Et il faut dire que Chopin va l'influencer considérablement. Il va en plus écrire un livre à sa mémoire. Et on peut dire que les polonaises, les légendes, la mazurka, les ballades que compose Liszt sont évidemment des pièces qui sont dédiées à l'esprit de Chopin. Sa berceuse, beaucoup de choses. Donc il se passe quelque chose de l'ordre presque d'un transfert d'un génie à l'autre, où là, la libération des complexes de Liszt devient une réalité, un peu comme Schubert et Beethoven. Mais en beaucoup plus important et signifiant.
Jean-Yves Clément, vous nous avez dit donc que Chopin et Liszt se sont connus donc à Paris, dans le Paris des années 1830. Donc ils ont été amis rapidement, leur amitié a duré longtemps, comment ça s'est passé ?
Faut pas oublier que c'est des jeunes gens qui font aussi la fête, même Chopin à cette époque, il a à peu près encore
bonne
santé.
Oui, il avait une vingtaine d'années, tous les deux.
Il rigole, il côtoie Mendelssohn, Berlioz, tout le monde, ça devait pas être triste. On a toujours une image un peu compassée du romantisme ou grave, mais je vois pas ça comme ça. Oui, mais au fur et à mesure, ça va se distendre, leur relation, pour plein de raisons, femmes interposées aussi, d'agoussantes avec des rivalités, et puis ces deux hommes de nature totalement contraire. Renfermé, l'ont exposé. Il y a une force centripète chez Chopin et centrifuge chez Liszt. Donc, et puis le concert, enfin plein de choses qui s'opposent. Ce que Liszt va être pour Chopin, c'est un merveilleux missionnaire. Il lui dédie premier cahier d'études, le deuxième sera dédié à Marie Dagou. C'est pas pour rien, c'est ce qu'il fait Chopin. Il avait une fascination pour le pianiste Liszt et même pour le musicien aussi quelque part. Mais il savait bien, lui, comme tant d'autres, que Liszt était un être. Et le fait est qu'il est né après sa mort. La première période, c'est des paraphrases, des transcriptions géniales, certes, des leaders déjà merveilleux, mais rien d'autre en fait chez Liszt. Faudra attendre. C'est ça qui est étonnant.
Et Liszt se serait nourri de sa vie pour composer sa musique, et Chopin peut-être de de lui-même.
C'est la bonne question. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il le dit, il l'écrit. La vie et l'œuvre, pour lui, c'est une seule et même chose. C'est un acte de charité, de don, de création, et il faut mettre tout ce qu'on est dans tout, pas seulement dans ses œuvres créatrices, mais aussi dans sa façon d'être. Et ça, il l'a incarné comme personne. C'est un peu entre Léonard de Vinci et l'abbé Pierre. Vous voyez, Chopin est un pur créateur, comme une plante merveilleuse enfermée dans sa serre. Donc ça, c'est vraiment... Je parlais de Proust, tout à l'heure, on y est. Liszt, c'est Victor Hugo. Je suis une force qui va. Hernani, c'est Liszt. Voilà. Donc c'est deux mondes, deux planètes opposées, mais incroyablement complémentaires. Il y a quelque chose d'une synchronicité qui se joue à cette époque. Hein, quand on sait que Mendelssohn est né en 9, Schumann en 10, Wagner en 13...
Cette génération 1810, c'est quand même...
C'est une pépinière incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ?
Et même dans leur, je l'ai dit en introduction, dans leur vie sentimentale, c'est quand même troublant de voir que tous deux approchent deux aristocrates qui sont également, qui écrivent également.
Oui, c'est étonnant ce parallèle, mais ils en avaient besoin aussi. Et puis Liszt est un vrai littéraire, un intellectuel. Les affinités avec George Sand sont extraordinaires. Et Liszt, il gagnera un peu un jalon avec, après, il passera d'une baronne, donc d'une comtesse à une princesse, avec la princesse Sanne Wittgenstein. Ouais. Bien sûr. Mais à l'époque, c'est les aristocrates que les artistes fréquentaient. C'est un peu le seul droit qu'on leur donnait, parce que la condition subalterne existait encore, et Liszt la condamnera dans de nombreux écrits, d'ailleurs.
Alexei Lyubimov sur un piano droit à Pleyel de 1843. C'était la berceuse opus 57 de Frédéric Chopin. Jean-Yves Clément, est-ce que la musique que l'on vient d'entendre, est-ce que Liszt aurait pu la composer ?
Ben, il a composé une berceuse, oui. Sublime aussi, en ré bémol aussi, qui doit à celle-ci. Donc oui et non, personne n'aurait pu avoir le spectre harmonique de Chopin. C'est ça son génie absolu, même son sens de la mélodie. Et Liszt n'a jamais cherché à l'imiter d'ailleurs. Mmh.
Mais oui, vous dites que chez Chopin, il y a effectivement un sens de la mélodie quasiment unique, comme peut-être un Schubert. Ou
comme Schubert, comme
un Mozart.
Grieg,
aussi.
Grieg oui. aussi, un sens de la mélodie, je trouve génial. Mmh. Et harmonique aussi. Mais l'harmonie de Chopin qui va préfigurer des Russes à droite avec Scriabine Rachmaninoff, des Français à gauche avec Ravel et Debussy, même Fauré, c'est totalement incomparable. Mais Liszt aussi ouvre le champ de la modernité, mais c'est plutôt Busoni, Strauss, Schoenberg, puis Ligeti, Bartok. Donc oui, ces deux-là ont couvert toute la musique à venir, en fait. Mmh. Et Wagner.
Bien sûr.
Ouais. Wagner qui pompe aux deux.
Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous diriez, Jean-Yves Clément, que l'évolution, le parcours de Liszt et de Chopin a été peut-être un peu parallèle au départ et finalement les lignes se sont écartées. Plus le temps passait, plus les lignes se sont écartées. Est-ce que ils se sont brouillés à un moment? Est-ce que pour des raisons, je ne sais pas, personnelles, musicales, professionnelles?
Oui, un petit peu. On raconte une histoire où Liszt a emprunté la chambre de Chopin pour y abriter ses amours avec Camille Pleyel, vous savez. Et donc, ça, Chopin avait moyennement apprécié des petits trucs comme ça de garçon. Mais en fait, c'est tellement deux mondes différents que naturellement, ils se sont éloignés. De la même façon qu'à partir de 37, Liszt a pris son piano et a couvert les steppes, comme il dirait, en franchissant toutes les frontières de l'ancienne Europe, alors que Chopin restait réfugié à Paris puis ouais. À Nohant. Chopin est un exilé perpétuel qui vit dans des îlots comme ça qu'il protège et l'enferme. Et l'autre court le monde. Comment voulez-vous qu'il se retrouve au hasard de rencontres? Mais ce ne sont pas du tout les mêmes tempéraments. De toute façon, les mêmes
personnalités. C'est vrai qu'il y a chez Liszt un caractère missionnaire de la musique. Vous l'avez dit, oui. Jean-Yves Clément, qui, par ses transcriptions, voulait faire découvrir tout le répertoire. On pense évidemment les symphonies de Beethoven, mais pas que.
Un sens de la conquête, de l'humanité, de l'espace, la planète, de tout, de la musique. C'est un dévoreur, c'est un ogre, un monstre, un géant. Chopin est, à côté de ça, d'une humilité, d'une modestie totalement au contraire. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est leur union au-delà de tout ça. Dans leurs pages, qui sont quand même géniales les unes et les autres. Parce que on oublie souvent quand même l'œuvre de Liszt à côté de celle de Chopin, alors qu'elle est considérable, et pas seulement pour piano. Plus que considérable. Mais aujourd'hui, qui connaît la fausse symphonie? Qui connaît Christus? Qui connaît des œuvres comme ça, finalement? Pas assez de monde. Et des poèmes symphoniques géniaux. C'est ça qu'il faut aussi revaloriser, je pense. C'est l'œuvre de Liszt.
Et si on se livre à un petit jeu de fiction, Jean-Yves Clément, si Chopin avait vécu plus longtemps, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'il aurait poursuivi dans son chemin, dans son parcours en tant que compositeur, j'entends, c'est-à-dire une musique qui peut-être se resserre de plus en plus, où il est lag, il va de plus en plus à l'essentiel, on aurait abouti à une sorte de substance, de substrat, de quintessence.
Oui, un monde entre Scriabine et Debussy, mais je pense que l'avatar de Chopin, c'est Claude Debussy. Qu'il admirait, qu'il adorait, autant que Liszt adorait Beethoven, Debussy a aimé Chopin sans réserve. Donc c'est à ça qu'on aboutit dans le dernier piano de Chopin, à l'art de Debussy, Ravel aussi souterrainement, mais surtout Debussy.
Thank you.
Jos von Niemerzell sur un piano, Erard de 1886, c'était Nuages gris de Franz Liszt. Jean-Yves Clément, une des dernières pièces, pièce pour piano de Franz Liszt. Là, le piano moderne est né, disiez-vous, à micro fermé, c'est exactement ça.
C'est-à-dire, en croyant fermé, parce que c'est très pessimiste comme musique, Liszt, en fait, il ouvre des nouveaux mondes. C'est ça qui est fabuleux. Oui, là, il y a tout à venir, c'est inimaginable. Mais surtout, c'est l'arc entre le virtuose flamboyant du début et la scène dépouillée de la fin. Mais quelle trajectoire.
Ah, le parcours, effectivement.
C'est inouï. Fascinant. C'est pas aller du plus au moins à la raréfaction, comme on dit. Ouais. C'est quand même un modèle, je trouve. De musique et de vie.
Et il y a ça dans toutes ces dernières pièces pour piano de Liszt, ce côté à la fois, à la fois sombre, mais effectivement
resserré, aphoristique, où le silence prend toute la place et presque la fin de la musique. Liszt célèbre la fin de la musique, croit-il.
Et là, quand vous entendez justement ces nuages gris de Liszt, quels sont les compositeurs qui vous viennent à l'esprit, qui ont pu entendre et s'inspirer, chez qui cette musique a pu résonner?
Debussy, on parlait des Pas sur la neige, là, son prélude, Scriabine, et puis ce Avenir, tous, et même Ligeti, de loin, Schoenberg avec ses miniatures, Berg, tout un monde, c'est étonnant, il est partout, même chez Mahler, avec cette noirceur quand même. Il devient tout le monde. Il dépasse Wagner. Il est plus important pour l'histoire de la musique que Wagner, disait Busoni. Souvenons-nous de ça.
Bon, ce sera le mot de la fin, Jean-Yves Clément. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Chopin et Liszt, La magnificence des contraires, qui vient de paraître aux éditions Première Loge. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Romain Lenoir, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Christophe Corbier et je vous emmènerai en Grèce. D'ici là, bonne journée et bonne semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.